On est de retour maintenant pour parler de ce qui se passe au Saguenay parce que on en a parlé toute la semaine avec les motoneigistes disparus. On va retourner à notre collègue qui est à la station Kick, à notre station sœur, Maxime Simard. Bonjour.
Hey, bon midi, Eric.
Bon, Maxime, est-ce qu'il y a du nouveau chez vous au cours des dernières heures?
Non, écoute, c'est vraiment le statu quo là, depuis les dernières heures. En fait, depuis hier soir, là, moment où on a finalement confirmé qu'on avait retrouvé quatre autres motoneiges dans le secteur de la rivière Grande Décharge. Depuis ce temps-là, ben, les recherches avaient arrêté au courant de la nuit parce que pour une question de sécurité, ça a repris officiellement ce matin sur le coup de 8 heures. Encore une fois, beaucoup, beaucoup de plongeurs de la Sûreté du Québec qui sont là. Presque tous les plongeurs finalement qui sont disponibles à travers la province sont ici du côté de Saint-Henri-de-Taillon. Le poste de commandement de la Sûreté du Québec est toujours en place. Il y avait près d'une trentaine de policiers également qui sont là sur le terrain.
Là, tu me dis que quatre autres motoneiges ont été trouvés. Est-ce que toutes les motoneiges ont été retrouvées jusqu'au moment où on se parle, là?
Écoute, ce qu'on nous confirme du côté de la Sûreté du Québec, c'est qu'il en manque encore une motoneige. Donc, selon ce qu'on avait appris, ce qu'on sait depuis la disparition, finalement, de ces gens-là, mardi soir, c'est vraiment une motoneige qui manque parce que, pour dire qu'hier soir, on en a trouvé quatre, mais on en avait trouvé deux autres la veille, ça veut dire qu'on était à six. Et selon ce que je comprends, il y avait sept motoneiges du moins dans le secteur. Et il y en avait deux, finalement, que les rescapés utilisaient là, pour se rendre du côté du dépanneur pour aller appeler les services d'urgence.
Là, on a su que les motoneiges avaient été loués à Saint-Michel-des-Saints, en Lanaudière. C'est là, j'ai mon chalet, c'est loin du Saguenay. Là. Donc, c'était du monde qui était parti depuis un bon bout de temps puis qui était loin, là.
Écoute, de ce que je sais, effectivement, ça part de ce coin-là, c'est ce qu'on a entendu parler. La randonnée, en général, à quoi ça ressemblait, les gens avaient parti du côté de là-dessus, semble-t-il, dans les dernières heures, okay. Et devait se rendre du côté là, de Saint-Gédéon à l'Auberge des Îles, qui est à peu près, là, je te dirais, à nous autres, à une quarantaine de minutes où on se trouve actuellement en voiture, en motoneige, c'est plus long que ça. Donc, c'était la randonnée qui était prévue. Malheureusement, il est arrivé ce que vous savez là, du côté de Saint-Henri-de-Taillon. Effectivement, ça fait loin de chez vous.
Là, hier, tu nous avais dit que les trois survivants étaient en route pour repartir vers la France et ils s'en allaient vers Montréal. Est-ce qu'on sait s'ils sont revenus en France au moment où on se parle?
Écoute, à ce qu'on a su, je te dirais qu'on n'a pas eu vraiment de nouvelles d'eux au cours des dernières heures. Devaient prendre l'avion hier soir pour retourner effectivement du côté de la France. Donc, j'ose imaginer que probablement ils sont rendus effectivement dans leur pays d'origine.
Là, l'identité de toutes les personnes portées disparues a été aussi rendue publique. On a même leur visage dans les journaux ce matin. C'est quoi la prochaine étape, là? Est-ce qu'à un moment donné, ils peuvent dire que ces gens-là sont décédés sans retrouver les corps? Comment ça marche dans des situations comme celle-là?
Écoute, pour le moment, on parle encore de gens disparus. Je parlais avec les porte-parole de la Sûreté du Québec là, qui sont ici. On parle encore de gens disparus parce que même si les espoirs sont de moins en moins là, il y a encore des recherches en parallèle qui s'effectuent sur les glaces, sur les îles, un peu comme je vous dis en fait depuis le début de la semaine, depuis qu'on se parle. Il y a des recherches encore en parallèle qui s'effectuent là. On garde quand même espoir, mais on s'entend que tous en ligne pour dire qu'effectivement, malheureusement, les personnes sont probablement dans les eaux de la Grande Décharge. Mais ce qu'on dit du côté de la Sûreté du Québec, c'est que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé encore les corps, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé localiser ces personnes-là, on va poursuivre les recherches. Mais la grande question est jusqu'à quand?
Ben c'est ça. Est-ce qu'ils vont continuer toute la fin de semaine? On sait-tu si ça va arrêter bientôt? Parce que sinon, ils vont les retrouver au printemps. Là. Je veux dire, s'ils ne retrouvent pas maintenant, un moment donné, c'est grand lac, là, le courant peut les avoir transportés très, très, très loin du point d'origine, là.
Ah ouais, puis tu sais, tu dis que le lac est grand, non seulement ça, mais en plus, c'est arrivé, c'est à l'embouchure de la rivière Grande-Échange, pour se rappeler. On a fait des recherches tantôt en parlant justement avec les policiers. La rivière Grande-Échange, pour ceux qui ne la connaissent pas dans notre secteur, c'est une longueur de 15 km et d'une largeur de 3,1 km. Et au bout de tout ça, finalement, il y a une centrale hydroélectrique de Rio Tinto. Donc, les recherches sont vraiment dans cette grande décharge-là, ça s'effectue. D'ailleurs, on vient toujours d'arriver, les journalistes là, de ce secteur-là, où ont lieu les recherches, parce qu'on n'y avait pas eu accès encore. Okay. Donc, on a pu aller prendre du visuel, voir comment ça se passait avec les plongeurs dans les dernières minutes. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déploiement dans ce secteur-là. Donc, on cherche. Et c'est où, d'ailleurs, on a trouvé les motoneiges hier.
OK, ils ont retrouvé les motoneiges-là, mais évidemment pas les corps. Est-ce qu'il y a eu c'est-tu déjà arrivé au lac qu'il y a des gens qui disparaissent comme ça, puis ça prend des semaines, voire des mois avant de les retrouver?
Écoute, à ma grande connaissance, c'est-à-dire dans les dernières années, Normalement, les recherches se poursuivaient et on réussissait à trouver des gens. Là, durant la saison hivernale, écoute, c'est sûr que ça peut être plus compliqué parce que les glaces et tout ça, mais à ma grande connaissance, normalement, on réussissait à trouver les gens assez rapidement.
Il y a un auditeur qui me dit le problème avec les motoneigistes, c'est que leur casse flotte et ils font flotter le corps sous la glace, donc ils se déplacent rapidement et ils peuvent aller très loin. Je sais pas si c'est une théorie qui se tient, là, mais effectivement, si le casque est assez hermétique puis qu'il y a de l'air dedans, ça serait normal qu'il puisse peut-être faire flotter un peu plus, puis ça permet de la circulation, puis ça permet aux casques de se déplacer pas mal plus que les motos. Pas les motos, mais les motoneiges, parce qu'elles, les motoneiges, sont plus pesantes puis ils n'ont pas d'air. Fait qu'eux autres, ils ont tombé dans le fond, c'est pour ça qu'ils retrouvent.
Ah, oh, exactement. Puis faut comprendre que le courant est très, très, très fort dans ce secteur-là. Là. Donc, c'est ça que si malheureusement tout ça se confirme, là, ils peuvent avoir été emportés très, très loin.
OK. Fait que pour l'instant, il n'y a rien de nouveau à part ça. Puis l'hélicoptère, es-tu encore là?
Écoute, elle est posée, elle est atterrée à côté de moi en ce moment. Là. Donc l'hélicoptère, la seule hélicoptère de la Sûreté du Québec qui reste, elle est vraiment ici. On s'en sert effectivement de temps en autre. On la voit là, aller survoler les glaces du lac Saint-Jean. Mais pour l'instant, là, elle s'est posée, elle est tout juste à côté de moi.
OK. Fait que puis l'autre qui avait, il n'y en avait pas un qui avait eu un problème de mécanique puis que le bureau de la sécurité du transport enquêtait?
Oui. Oui, effectivement, celle qui s'est écrasée au cours, l'hélicoptère qui s'est écrasé là, au cours de la dernière semaine, alors qu'on était en opération de recherche, Elle est encore sur les glaces actuellement. Il y a le PST qui est venu hier faire ce qu'ils avaient à faire leur enquête. Pour l'instant, ils n'ont pas pu nous donner davantage de détails là, via la porte-parole. Elle nous dit qu'on a amassé beaucoup d'informations. Par la suite, on va faire l'enquête autour de ça. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est que les gens indépendants de tout ça, de la Sûreté du Québec et du PST, sont supposés aller chercher ce qui reste de l'hélicoptère sur les glaces. Et je ne sais pas si vous avez vu circuler les images sur les réseaux sociaux, là, mais il reste malheureusement plus grand-chose de l'hélicoptère. Puis c'est capoté de voir les images parce qu'on se dit qu'il y avait un pilote là-dedans. Puis heureusement, on ne craignait pas pour sa vie. Il a été transporté au centre hospitalier, puis seulement avec des fractures. Là.
C'est incroyable. Parlant des images, on a vu aussi les images des mais on peut pas les appeler les victimes, mais appelons-les les motoneigistes disparus. Il y en a un peu plus âgé, on dit qu'il était même plus expérimenté puis plus connu puis qui venait au Québec à tous les ans. C'était monsieur Gilles Claude, puis les autres on voit que c'est des jeunes français là entre 24 et 35 ans à peu près on a connu leur identité puis un peu leur histoire au cours des dernières heures là.
Oh, exactement, c'est ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu parler, c'est effectivement ce qui se dit aussi. C'était des gens qui venaient en motoneige. Il y a même des gens qui étaient déjà venus, je pense, dans notre région. Là, je ne veux pas me tromper là-dedans parce qu'il y a quand même beaucoup de détails qui sont sortis. Mais effectivement, on semblait connaître un peu notre coin. Là.
C'est ça qui est assez spécial. En tout cas, on va. Si jamais il y a d'autres nouvelles, parce que c'est pas impossible qu'on l'espère là, dans les prochaines heures, il y a des découvertes qui soient faites de votre côté, bien, on va se reparler, je l'espère.
Oui, Eric, pas de problème. D'ailleurs, on reste sur le terrain tout au long de la fin de semaine. Je suis content qu'il y ait des développements.
Maxime, juste en finissant, là, je veux juste savoir, les trois survivants, est-ce qu'ils ont raconté l'histoire? Parce que c'est leur version à date qu'on n'a pas. On a eu la version d'à peu près tout le monde, sauf de eux, alors qu'ils étaient les premiers témoins.
Écoute, à ma connaissance, on n'a pas eu l'occasion de leur parler parce que hier, quand ils ont quitté la ville d'Alma où ils étaient depuis déjà quelques heures, sont partis assez rapidement, devaient aller prendre l'avion, comme je vous disais, du côté de Montréal. Et même là-bas, je pense qu'il y a des journalistes qui s'étaient rendus sur place pour tenter de leur parler. Et à ma connaissance, ils n'ont pas réussi.
Fait qu'on ne sait pas exactement tous les détails de comment ça s'est passé là, quand les motos se sont mis à s'enfoncer.
Non, la seule version qu'on a, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur vos ondes, là, ce matin, je l'avais envoyé à la salle des nouvelles de Cogeco. C'est la caissière, entre autres, du dépanneur qui expliquait qu'est-ce qui s'était passé là, dans les premières minutes où les gens avaient débarqué. Je ne sais pas si vous serez peut-être en mesure de l'entendre un peu plus tard, au pire, là, mais elle racontait vraiment qu'est-ce qui s'était passé et que les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, ne savaient pas trop ce qui se passait avec leurs amis également sur le lac. Là. C'était assez particulier.
Parce que ce qu'on comprend pas, c'est est-ce que la glace s'est mise à fendre? Ou s'il y avait carrément un trou. On n'imagine pas comment autant de motos peuvent tomber dans le fond du lac.
Écoute, Éric, c'est en Belle-Eau-Claire. Je viens toujours. On est allé voir là, dans le secteur où c'est arrivé. C'est en Belle-Eau-Claire. C'est une rivière. Ça circule comme si on était en plein été. Donc, c'était le soir. On connaissait peut-être moins un peu le secteur. Okay. Et il neigeait, il ventait. Donc, probablement que malheureusement, on n'a pas vu ça.
OK. C'est pas les glaces qui ont craqué un moment donné ou qui se. Ben, sûrement parce que le bord, ils ont dû se rendre jusqu'au bord. Puis là, ça devait être plus. Ça devait être moins solide, là.
Effectivement, mais écoute, dans le secteur où on est allé, tantôt, nous, où la grande décharge commence, là, c'est en Belle-Eau, comme si on était en plein été là, sur le bord du lac.
Hey boy. OK, ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Maxime. On s'est parlé pas mal plus qu'on pensait cette semaine de cette histoire absolument incroyable. Merci de nous avoir renseigné sur tout ce qui se passe de ton côté.
Hey, salut, Eric. Bye-bye.
Bye-bye, bon week-end.